Dulé.
Oh, Doc.
Doc.
Ah, ah.
Tout du.
Poetry Night, Paris, New York, enregistré par Duodoc le 11 janvier 2017, avec dans l'ordre d'apparition Matt Longabuco, Rachel Walensky, Laura Boulic, Antoine Dufeu, Doroville Langlois et Pierre Paulin. Ça commence.
Thank you. I'm going to read in English. Thank you for indulging me and then do my very best to understand the other readers, which I think I'll be able to do. I'm just going to read a little group of poems. I know you needed those jeans to last. Days scrape by. The books on the shelves won't let me read them. I try to pry one open. Nothing doing. Frenemy on desert residency. Tears still hot from their ducts, like goose shit still steaming on the palace lawn. While you, having ventured from your freezer, crossed the park in vapor. Long trust shaken, maybe broken. One hears a slight from across Brooklyn, a nasty crack spoken into a tipped up cup, and looks around at the strangers on the bus, a woman in her 70s in rosary and wedding ring, orthopedic shoes with Velcro straps, squeezes each swollen finger in turn, carries a canvas tote bag with a Bible verse on it, 1 Timothy 6:15. I look it up. God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords. Pocket goes off, it's my mother, trying always to discover the conditions so rare under which this little lord will consent to answer his phone. Before, there was hunger, the way it slowly rises. The scruffy attendant joins the patients for a smoke. Tap of keys heard from within the keyboard. Ghosts that pinch whoever crosses the northeast corner of McCarran Park. Before, a calligrapher poked twice and brushed twice, and there you were, your eyes and the dark circles below them. Even to hang those tin implements on that wreck of a fence, even to hang a mildewed tarp. The spots, black as ink spots, on the one hung above and behind Hendrix when he twists the Star Spangled Banner into a radioactive balloon. Before the look of things changed, before the cheap replica made the medium price replica the Acme. After, he could do it in just 3 months. Hell, he could do it in 20 minutes. After, there wasn't a story to overlap with. They happened elsewhere, could be examined closely, but never merged. She put real names in a true account, adopted her father's famous gesture of anticipation, the palms big as dinner plates and carried like them. The foot warm in the palm at night, the tissue box held upside down, the tissue hanging like a curtain, and the tramp pulls it out so the show can start, only to find another curtain has taken perfectly the place of the last. He pulls another, and another, and another, then weeps, exasperated, then wants to wipe his nose and finds he holds 100 tissues with which to do it. She's charmed after, he decides, clears her throat to argue the young and beautiful are not what we damn well know them to be. But the crowd drifts, the black river flows, a record turning on a turntable, and into it, like a needle, you dip your slender wrist. Trying to decide whether to read one of these two poems. Do you watch the movie Groundhog Day here? No? You've never seen the movie Groundhog Day?
Yeah.
You know it?
Bill Murray.
Bill Murray? Yes? You all seen it. Okay. I'm going to read this poem called The End of the World. The End of the World. If it did come, this poem will never know it, though it's built to survive, the way 93's Groundhog Day was meant to live forever on television, meant to be television. You enter anywhere, the throes of its repetitions. Even the commercials fold into its terror, the terror of going alone. A disappearance, people pulling away from people. What binds us, I forget. Suffering is like weather. Say over the phone, it's raining where I am. What does your old friend, far end of the line, really understand? Deep down, we think we've become the king shit wizards of information, don't we? Yeah, we do. Lately, a kind of pity for the past has crept into our self-regard, that it never should have glimpsed the blazing dexterity of our knowing, when of course we know nothing. We don't even know that when some nut predicts the end of the world, the exact date and hour, to the snarking delight of the evening news, especially when the date passes by as always, how in truth on those days the world does end. It ends for and in the prophet, or the newscaster, or the friend, or the poet. Is that somehow not enough? Is each single one so expendable? Can the world only end for us? But there is no us. People pulling away from people. Scarcely navigable rain. You could have done a better job responding to that old friend's email by responding. I'm just saying, but you'll follow each other. Staying up all night, trying to forestall the morning, running your fingers over the spines. Like Phil Connors tries, but even though he wanders into the night's blurred reaches, the looming numbers of the only day's clock still tumble over. The song that makes light of love's sick possessiveness cranks up, and what the hell happens in between? Let us not even speak of that unspeakable montage in which he first constructs and then watches come unglued his own Baroque fraudulence in the service of that courtship unto freedom. But neither can we look away. Thus our eye sustains him, the eye of the continuation of the world as it is, eye you sometimes feel slipping off of you, and then for all your shenanigans, you cannot court it. It is a disgusted eye. It smiles on others. Yes, they live. You were right to be jealous of their straining exuberance. It's precisely as grinding hot between them as you imagine, though their worlds too will end and they can write their own poems about it. I can't or won't. While in the wake of the eye's desertion, beneath the deep shadow that falls there, the end of meaning arrives, the end of even being able to mean. Yeah, right, exactly, the end of the world. What the fuck did you think we were talking about here? Floods and volcanoes? No, and not the wasteland, unless it was titled No Signal, and was more about a florid Brooklyn-style freakout in an upstate Tim Hortons, the faces like sagging dough glazed with fluorescence. So are we all together now? Still together? Are you quietly critiquing? And why do that? Is that what you really want to be doing at the end of the world? Wishing some other poet had done the job? Nervous texting outside the venue is a kind of human echo location. Why is it so pivotal that Phil buy insurance from Ned? Easy. How better to accede to the limitlessness of scenario, the madness in eternity, than to diffuse uptight actuary through the paradox of embodying all statistics? Don't forget how Rita, Phil's pole star, the one who waits, her L'Oreal lashes carved in bluest ice on a pedestal, teetering over the edge of the end of the world, studied the moment in modern poetry when the self became a missing person, missing not in space but in time. Does Phil acknowledge this when he rolls over to retrieve, in the midst of his botched seduction, a volume of Baudelaire? Or earlier when he recites to her in insipid French what I'd hoped to discover was the dirty dandy himself, but is actually Jacques Brel? The girl I will love is like a fine wine that gets a little better every morning. The claustrophobia of patience. And Latia writes, as we approach a time of transformation, old patterns or shadows come back with a vengeance. In a way, they are living beings that you have been feeding. As you begin to see them and not want them there, begin to consider not feeding them anymore, they fight hard for their lives. Picture them, misbegotten stomachs hunched in mean earth. Our coldness towards the crazy is a lash. Something flies alongside the letters we send, or emails. You know what I mean. Stop thinking the words or world have moved forward in time or in any other way in these lines. The end of a poem is not the end of the world, don't worry. But I think we've all been in one of those situations, violent or ridiculous, when the poetry gets sucked right out of everything. You have to grope back towards it across the tract of scorn or indifference. And what do people say the whole time? Relax, it's not the end of the world. Call me, I miss you. And would you be willing afterwards to complete a brief 5-minute survey about this poem? Would you be willing to complete a brief 5-minute survey about the world? About the end of the world? Do you think you might have found the inevitable end of the world more unbearably tragic, with one being the least and five being the most unbearably tragic, if while the world had existed, the mornings hadn't been so mirror raw? Faces on the other side. You're here to learn, not to suffer, writes Latia, but to study in the jaws of decay. Phil takes piano lessons. He carries their memory in his fingers through the gauntlet of the bardo 1,000 times 1,000 times over. If I could play music, we wouldn't have had to go to all this trouble. Thank you.
Je vais aussi lire en anglais. Je vais lire un extrait d'un texte qui s'appelle Ambivalent Expenditure. In an essay on boredom, a dog says, somebody brackets their body and somebody doesn't bracket their body. Each thing changes into a bare unit of wit, which offers a repose at best. May is ambivalent expenditure, its sun-glazed face held up to a room walled by windows, which stares out onto the promise of representation. The mountain, the seaside, the city, all leather-like in their unreality, spread over one, then two, then 30 of these long days. Then from the train to the hotel. The hotel enters. The room is all olive tones, grainy. There was an overnight train, a mid-evening meeting. She is constantly entering and leaving the hotel. She directs people to move, to speak, to sit on the bed by the phone, though it doesn't ring. She reminds me of a memory of going to a film festival in Germany to show something she had made to no one, and no one spoke to her. The hotel room is empty. She is in the hotel room. Her phone rings. A mother. There is a man in the room, but soon he leaves in the middle of the night. She goes to the countryside. She doesn't go to the countryside. She sits on a chair designed to fit her crinoline, which we do not see in the frame. The frame willfully steps aside, but in the interest of shifting desire. Disclosures of innocence, sometimes corrupted, beguiling youthful premonitions of a cultural system that never quite comes of age, but is always too old. Duras on untimeliness, very early in my life it was too late. Of course, that was already the red nectar spreading across her veins. A character losing her memory. I confuse Peggy and Judy, for I am not a student of their desire. To Peggy's voice, the woman keeps dancing late into the night. To Judy's, another phone doesn't ring. Both wonder, is that all there is? Style will be returned to its proper proportion. Someone writes, the demise of the object. The sound at the extremity pushes its way in. Fingers tap tap on a tabletop. Insufferable repetition, insufferable interruption. A feeling also is pushing its way in from the extremity. She crushes her cigarette violently. It comes down on the ashtray like a fury of pellets raining down from the sky. Another, before the camera, is balancing a rose in her mouth, holding the tip of its stem between her teeth. In the hotel room, the same as ever, she walks away from the mirror to answer the door. There is a man behind it, a lost lover. She is already moving away from herself, always already moving away from herself. To be born with a wolf's head, to be born a working woman, to be born a woman house. She does not know that she is half naked, and she does not know that she is trying to hide. She is growing uncomfortable and curious and breathing short breaths from growing recognition, but this is already saying too much. She smiles with familiarity. Yeah, I know the feeling. Her sweater is sliding gently off her shoulder, and the blue gingham window curtains behind her make it feel like a house or a kitchen or a diner in a place which has no place, in a room that is only the semblance of a room. He is telling her the story of her life, and she knows it, and she is looking at herself and at him in the mirror, which is a window and not really a window. There is a certain kind of humor to the mirror, the window, the growing recognition. But we are still crying. They are both captive, and one day she imagined herself at night running naked down a highway, and then one day she did it, but she is already naked, at least half naked, and is starting to know not to hide. Slowly memory is returning, but through a one-sided window. Latency sets in, tentatively, the obscurity of a crisis breaking out into song. To release from its relation to the future would be to undo our relation to it altogether. Thus, were I a student of their desire, they might also be students of mine. The embodiment of emergence, the result is not simple. A field of marigolds. Juxtaposition as doing one thing and then another. A thing is said, and then hours or maybe only minutes later, a reply comes. He tears the capital off the column. She couldn't live in trompe-l'oeil architecture, stucco, and living foliage. They buried the mirrors, they were growing pregnant from them. The mirrors kept something strange to themselves. To watch despite and through the impossible tediousness for the potential to triangulate, standing in front of each other, there a perfect reversal, a squaring. Above, blue or white, below, blue or white. four hands held. They are beginning to write a new line of typographical arrangements, the major axis. The pyramid rises out of the pond's wrinkly surface in striated levels. There is no such thing that is not this. The hour of the pensée-plume, a flurry of materials softly coming into focus, practicalities. A strand of hair briefly along the side of the shoulder, all which is condensed in that. The sun peeking through thin curtains, or even a small patch on the floor here, briefly. She said it was a blue hour. And someone told her that it was something that was already there, done in the sleep of her life, in its organic ruminations, unbeknownst to her. This seemed plausible. In the sliver of the end of the month now, she gathers the gardens, the rooms, the fabrics, into smaller boxes even, piled one on top of the other to create a widening. Delay was unremarkable. All four of them ambled around a fifth, gathered occasionally but never for long enough. One loved glass, taut leather, a physicality from elsewhere which she couldn't find here. The other loved the apartment with its peeling paint, thought the wall should stay where it was. Their smoking is infectious, not affected. In late August, she liked the words indolence and torpor. They were fitted to the dust that was gathering on the windowsills. Words stood for objects and objects for fantasies in the path of introjection. She cried, "Reader, my reader, stay with me." The mirror, like a whisper, repeated her lines back to her. Count one, two, three, one, and again they were separated. Maybe a year goes by. He asks, "Have I changed so much?" A shoe with a broken heel from which there is no escape. He says, "You have the same empty look, the same laugh, the same way of extending your arms as if to push something away." Back to the room with shoes in hand. Everything was glass again. Profoundly silent dissonance set in. As long as the kinds of forms were agreed on, we'd be able to think up the subject. What she gives you, no one can take from her. Each reflect an endpoint where is will remain as is. A bottomless irony. Your words beside the song, parody which does not know where to stop. It's not that it is rambling, just that it has lost its nuance. A poem in prose, or maybe no poem at all. Thanks.
Je vais vous faire une lecture inédite avec un chat. Deux extraits en fait de deux livres différents. Le premier s'intitule Hugo. En fait, on retrouve le même personnage dans les deux livres. Il est sous-titré Autoportrait séquencé de Tony Chican. Et donc là, on se trouve dans la première séquence qui est intitulée Trou noir, semaine 37 de l'année 2009, Bulgarie, Côte du Soleil. Nouvelles impressions de la mer Noire. 1, 2, 1. Carrément un autre pays. La Bulgarie a complètement rompu avec son ancienne mode dirigée et planifiée. Motherfucker, I said, encaissant le premier choc venu transmis par le pneumatique du Boeing en contact avec le sol abrasif de la piste de l'aéroport. Miri Loubov, enchaînais-je, presque déjà prêt à générer du cash depuis le Zaïre jusqu'au sommet de l'Everest. Au moment de franchir le poste frontière, je tombais nez à nez avec une pub de l'opérateur de téléphonie Globule, prétextant la sympathie à l'endroit de la nature pour diviser le monde en deux. D'un côté Globule et la nature, de l'autre une couverture téléphonique pour tous. Je l'aperçus comme un mauvais présage, même si j'ai maintenant l'habitude de voir s'étaler slogans et images publicitaires plus dégueulasses que chiasse carabinée. À Varna, plusieurs heures durant, j'ai retrouvé quelques repères. Taverne en sous-sol d'hôtels consacrés par les années 70, chaîne de Lada et chats par dizaines, alignement de portiques dans le complexe portuaire, banitsi cuit dans des fours à bois, mouettes en rase-motte devant l'opéra, flux de pétrole serpentant entre les automobiles, ribambelle de poignées de main parmi l'élite culturelle locale. Puis le temps s'est arrêté brutalement. 1, 2, 2. Au bord de la mer Noire, nous, minibus et passagers descendons vers Bourgas et traversons d'anciennes forêts bordées de prostituées, autrefois régulièrement séparées du rivage par d'inénarrables tours hôtels jaillies de terre grâce à quelques apparatchiks. C'est au milieu d'un paysage semblable, aujourd'hui envahi par des constructions abandonnées en pleine crise financière, qu'il y a 22 ans, je m'étais fait violer. Violer est sans doute un terme inapproprié pour la majorité de mes concitoyens, qu'ils soient maintenant français ou bulgares. Je ne dus mon salut qu'à ma fuite, une fois les premiers attouchements opérés, loin, le plus loin possible, hors de la voiture de mon agresseur manifestement aguerri. Je ne doute pas que de nombreuses filles ou femmes, ici comme partout dans le monde, se font encore violer ou violenter, et que d'encore plus nombreux imbéciles, ici comme partout dans le monde, en rient encore et toujours, méprisant des existences bousillées incroyablement difficiles à réconcilier avec tout amour éclatant. Il m'en a fallu des années avant de pouvoir aimer. 1, 2, 3. J'ai soutenu ce souvenir une bonne trentaine de kilomètres avant qu'un arrêt âprement sollicité par un Russe à l'approche de son lotissement fraîchement sorti de terre, mais pour quelques années encore inscrit dans les comptes de l'agence locale d'une banque internationale, ne me fasse noter les démangeaisons machinales du conducteur, peut-être toujours sous le choc d'une transition brutale vers le capitalisme occidental, ressenti aujourd'hui encore jusqu'en son volant quotidien. Il faut toujours une première fois, dit-on. Moi, c'est la première fois que je reviens en Bulgarie depuis mon 5e effondrement amoureux. Être quitté par la femme de sa vie est une douleur sans nom, que le terme enjolivé de rupture rend avec parcimonie, pour ne pas dire calomnie. Largué, je l'avais été, homme qui parfois jouissait comme la femme que je n'avais jamais cessé d'être, au motif implacable mais juste de ne plus être aimé. 8 années d'une vie commune paraissent une éternité lorsqu'elle se heurte finalement à un mur de colère et d'argent, de briques et de nationalités, d'identités et de sexualités métamorphosées. Et on retrouve ensuite Tony Chicane dans un livre qui s'intitule « Sick ». Et qui est constitué d'un prologue dont le titre est « Si et seulement si ». Tony Chicane saute du dernier étage d'une tour anonyme de la ZUP Sud de Rennes et s'écrase à terre, mourant sur le coup. Fin de l'histoire. Sans aucun doute précipité, cette sorte de dépêche archi-locale, en réalité un post écrit directement sur Internet grâce à un smartphone par un voisin détestant Tony Chicane, présentait toutes les caractéristiques de l'information tronquée, approximative, comme on peut s'en rendre compte aisément. Ce soir du 14 août 2013, le journaliste en charge des faits divers des pages rennaises du premier quotidien français, Ouest France, avait toutefois repris à son compte et à quelques infimes nuances près ces mots pour leur conférer le statut d'une brève dans l'édition du journal datée du surlendemain. One-off. Badi plutôt que bordel, aurait-on d'abord entendu Tony Chicane crier du haut de sa tour en cette soirée du 14 août 2013. Son regard se serait ensuite un moment fixé sur la sculpture Les Argonautes avant qu'il n'ait balayé surtout tout en longueur l'arc-en-ciel dont quelques images de l'architecture si atypique peuvent sûrement fortement inspirer par cette mise en œuvre par Le Corbusier pour la Cité radieuse de Marseille, sont accessibles par une simple requête dans un moteur de recherche sur Internet. Pour mettre un terme à ses jours, il aurait alors sauté et se serait écrasé à terre donc comme il se doit. Durant un saut dépourvu de toute arrière-pensée, il aurait vu l'image d'un inconnu qu'il aurait préféré voisine de palier inconnu, habillé exactement comme lui, car mesurant la même taille, et présentant une corpulence identique à la sienne, sautait lui aussi du très haut d'un immeuble de quelques provinces chinoises. Il se serait dès lors imaginé super-araignée mutante, rebroussant chemin par les airs, ou bien au contraire persistant dans sa course effrénée et traversant l'écorce terrestre pour renaître spectateur attentif, sinon concerné pile là où il aurait fallu se trouver, afin d'assister en direct live à la fin de cette chute et, le cas échéant, tenter de surseoir à tout revirement du sort de dernière seconde, puisque, de nos jours, on n'est plus sûr de rien. Ainsi, n'est-il pas du tout certain que le sort ou le hasard soient plus déterminants que la mort ? Une vidéo postée anonymement sur cette même toile et découverte quelques jours après son supposé acte aurait pu éclairer le sceau de Tony Chicane d'un jour nouveau. Tony Chicane y aurait laissé un message écrit se présentant sous la forme d'intertitre sur fond noir par lequel il eût exprimé qu'il eût préféré sauter quelques mois plus tard du tout juste alors ensemble terminé haut de gamme Cap Mail situé à proximité de l'hypercentre historique de la ville de Rennes, mais qu'il n'eût pas eu la force d'attendre de réaliser ce rêve, à considérer seulement qu'il eût pu réunir dans un tel environnement les conditions nécessaires à l'accomplissement d'un geste certain, davantage mortel que fatal. L'histoire de Tony Chicane n'aurait alors pas connu, quoi qu'il eût advenu du rond-point des forces françaises libres de Rennes dans l'entretemps, la fin qui n'eût pas dû être la sienne. La statue des Argonautes ne se trouve pas sur le rond-point des forces françaises libres. L'arc-en-ciel, dont l'une des extrémités débute au niveau de la bibliothèque des Champs-Manceaux et l'autre au niveau du rond-point des forces françaises de l'ONU, ne se situe pas à quelques dizaines de mètres seulement du rond-point des forces françaises libres. Simplement parce qu'aucun rond-point des forces françaises libres n'existe ici et que le seul qui aura probablement jamais existé en France se trouve, certes non loin de là, en bord de mer, sur la Manche, à Saint-Quint-le-Guildeau. Tony Chicane, que certains de ses amis auraient parfois surnommé Toy, alors que certaines de ses amies auraient préféré le surnommer TCA, parce que cet acronyme sonne comme DCA, qui peut signifier, dans la terminologie militaire, défense contre les aéronefs ou défense contre les avions, droit des conflits armés en droit international public ou encore en bourse et en langue anglaise, dollar cost averaging, soit un investissement programmé, mais est aussi en chimie une abréviation pour l'acide dichloroacétique ou dichloroacétate, serait-il encore parmi nous ? Serait-il ainsi d'ici plusieurs années en mesure de confirmer sur l'honneur qu'il serait vivant, non pas afin de continuer à toucher une retraite complémentaire lui permettant de finir ses jours dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, selon l'acronyme en voie de consécration par un novlangue pérocratique, dont les frais liés à son hébergement, à sa nourriture et aux soins qui lui seraient prodigués seraient pour moitié pris en charge par le département de localisation de la dite maison, mettons le Pas-de-Calais, un département qu'il aurait bien entendu sciemment choisi parce que le pas de son nom lui aurait permis, aurait-il espéré, de trépasser au plus pressé et plus sereinement possible. Puisque ce pas de langue française désigne en géographie, assez rarement en bord de mer, ainsi du Pas-de-Calais, mais plus souvent à la montagne, ainsi du pas de la case, à un passage étroit, en creux, entre deux terres, mais afin de fonder en bonne compagnie une firme internationale prodigue en soins publics. Je vais m'arrêter ici.
Je crois qu'ayant peur de la mort, on se laisse parfois considérer l'héritage comme seule possibilité de présence en ce monde et que cela amène beaucoup d'absence et fait beaucoup d'absents du paradis. Il est difficile d'éprouver quoi que ce soit ici, de rendre folle au langage la pleine profondeur que je lui chéris. Elle m'importe trop, ce n'est pas d'habitude un effort que d'y accéder ici. Tout moi est rendu faux, c'est la course pour me trouver, je seul et simplement ridicule. Nous devrions nous aimer à part nos... Regarde ce que j'écris. Ce n'est pas moi. Je n'écris plus comme ça. Je perds l'essence, il est si difficile. Même quelques jours, je n'ai pas à vivre dans une prison différente de la mienne. On voudrait me faire croire que c'est une prison, pas un seul mot, je sais que c'est ma liberté, qu'ils prennent la leur. Avez-vous peur de ne pas trouver de cadre à vos désirs profonds ? Pourquoi pensez-vous que le cadre d'une personne doit être validé par quelqu'un d'autre de lui-même ? De quoi avez-vous peur ? Je refuse d'être folle devant eux, alors je le deviens. Je refuse le non-état d'être, je refuse l'envie de dormir. J'accepte, je veux tout accepter, avec eux, je me retrouve contre. Quotidien, c'est un luxe. Être son être entier au quotidien, c'est un luxe. Nous sommes lundi, demain. Lègue, guette, tard, s. Quel chant pour l'écriture. À talons, plore. Vas-tu la réussir? Sans qu'on te nomme, imagine. Au milieu des rappels ignorés, une farce, des yeux d'une neige d'air, y vérifier, souffrir, ancrer maintenant c'est dit, vivons ce rouleau d'être cœur sans meur ou se prouver. Mal et crime, regard vacille, le corps sec, l'avenir conscrit s'enlace, plus ne la ciel, la mer, aller vers une guerre en temps de paix, ouvrir, parler avant traduire, qu'a-t-on à terre? Consent, gêne, motus, is, synapse désunie, le vent ne retient pas son souffle, l'absent ne s'excuse plus, ivresse pendue au décor, par le regard haut désaxé, docile au vide, au départ du pays sans retour, c'est là, les ignorants funambulent au regret, affirme à sol centre eux la soie de ce qui est et ment. Lésion de siècle. Décision. Je crois qu'il était question de l'absence, et quand je pense à ma propre mort, je me dis qu'il y aura forcément, qu'il y a déjà en fait une personne qui jugera, elle n'est pas tout à fait de ce monde. Ainsi, je suis devenue absente, c'est relatif, au monde dit dominant. Je pense que je suis présente au monde dominant et justement absente à celui que je souhaite découvrir. Je suis très présente au monde dominant et plutôt absente au propre mien et hors sa loi, adossée au réel, sans faiblir. Je suis d'ici, plinée, où rien n'avait d'asile.
L'absence, je vais lire un passage à propos de Pôle emploi. À ces mots, N devient tout pâle et est pris de nausée. Il prétexte un rendez-vous urgent et s'enfuit en courant de la chambre Crous. En plus, c'est vrai, N doit aller voir son conseiller Pôle emploi. J hausse les épaules et se remet à danser sur « Je sors » de Daniel Ross. Inspecteur P se surprend à manifester de l'empathie pour N, mais il réfrène tout de suite ses émotions. Il se doit d'être professionnel. Pour garder sa concentration, P lance une musique dans son autoradio. Wanna be ball, shot call, 20 lames de pouce sur l'impale, à getting de la plan posée ce soir, switcher roulé serré obtenu pulvérisé, pareil, j'ai frappé le highway. Faire de l'argent de la voix, fly. Mais il doit bien avoir un moyen better, une meilleure façon, mieux, ouais. Ah. N doit se rendre à Pôle emploi. Pour cela, il doit prendre le bus. Il n'a plus d'abonnement depuis qu'il a fini ses études, mais il a une stratégie secrète. N collectionne les vieux tickets utilisés, et quand un contrôleur lui demande le sien, il en prend une poignée dans sa poche et les lui donne en vrac. Au bout du 10e ticket scanné, le contrôleur lâche en général l'affaire en disant « Vous avez de la chance pour cette fois-là, jeune homme. » Mais N s'en sort toujours grâce à son air perdu d'avance. Dans le bus, il observe l'affrontement des « 1 » avec les vitres, le jeu des formes cotonneuses et des lignes ancrées avec énergie dans un verre pas toujours transparent. Cette fois, il ne se fait pas contrôler, mais son premier voisin lâche « Ces putains de « 1 » nous empêchent de voir le paysage. » Choqué, N change de place dans le bus. N arrive à Pôle emploi, légèrement en retard, car avant de rentrer, il observe le jeu des 1. Avec les façades du bâtiment, le ciel devient vertical. Selon l'orientation des vitres, certains 1 se répètent, d'autres subissent une symétrie axiale ou centrale, la géométrie appliquée au 1, grâce au bureau d'affaires. Puis, N est concentré sur l'étude des faux marbres de la salle d'attente. 1. À chaque fois qu'il voit du marbre, N ne peut s'empêcher de penser à ce peint par Fra Angelico, qu'il trouve fascinant à cause de la liberté abstraite qui s'en dégage. D'ailleurs, quand il pense à ces fonds colorés, N pense plus au 1. Car N pense que les marbres sont au 1, ce qu'est l'éclairage électrique aux bougies. Une esthétique sans mouvement, trop parfaite, trop belle. 1. Du coup, N est vraiment en retard, ce que son conseiller lui fait remarquer, même s'il apprécie l'effort vestimentaire consenti par N. Au moment où N débarque dans le bureau, son conseiller est en train de faire des coloriages pour enfants. Il en est au crayon de couleur bleue. Son conseiller lui explique qu'à force de refuser les offres d'emploi, N va finir par ne plus toucher le RSA. N lui explique être payé à faire des photocopies après 5 ans d'études ou faire un stage nécessitant d'être polyglotte pour au final toucher un tiers du SMIC ne l'intéresse pas. Son conseiller insiste et passe au crayon violet. N se met en tête de lui expliquer pourquoi il ne travaille pas. Un ami m'a un jour confié qu'il pensait que le monde serait en paix s'il n'y avait plus de frustration sexuelle. Je ne crois pas trop en cette théorie, d'une part parce qu'on est tous pourvus d'une main pour se branler, d'autre part parce que je trouve le sexe répétitif relativement à l'activité qui me préoccupe. Regardez les 1. A-t-on déjà vu de 1 jumeaux ? Donc, pour moi, le monde serait en paix si au lieu de penser, courir, marcher, travailler, s'investir, vouloir, séduire, conquérir, évoluer, les hommes se contentaient de regarder les 1. Son conseiller s'énerve, casse son crayon rouge et vire N en criant qu'il ne le verra plus, car les incapables comme lui sont ceux qui font la faiblesse de notre pays. Maudit pelleteux de 1. En sortant, N tombe nez à nez avec une publicité pour l'auto-entrepreneuriat. N se met à penser qu'il pourrait vendre les 1 au lieu de les regarder. Un grand magasin à ciel ouvert. Il est beau, mon 1, il est beau. Combien le mètre cube de 1 est-ce qu'il coûterait plus cher selon leur géolocalisation? Une inflation du prix du 1, une crise du 1. Il lui sembla qu'il pouvait fracasser le ciel d'un monstrueux coup de poing, en arracher Dieu pour le traîner à travers ses 1. Lens, Georges Büchner, merci, elle. En fait, j'avais prévu un autre texte. Ouais, je vais le lire aussi. Elle me manque. Quand je bouge ma main droite, je peux ressentir sa présence. Je ferme les yeux et je ferme délicatement mes doigts un à un sur son manche. J'aime bien sa petite taille, je trouve que sa forme est parfaite. D'accord, elle a des défauts, par exemple, elle n'a pas de percussion. Elle appartient à une marque pas très originale. Et puis, elle a cette coquetterie d'avoir une lumière qui s'allume quand elle tourne, comme si j'avais besoin de visser dans le noir. Après ça, qui peut remplacer l'endurance de ses batteries au lithium ? Et la facilité qu'on a à les recharger, on la glisse dans son socle, clip, et c'est fait. Si vous n'en avez pas marre, en fait, je voulais lire un texte de quelqu'un d'autre qui s'appelle Simon Alleno. J'ai lu en venant, en fait, et je trouvais que c'était approprié. Mais je ne vais pas le lire aussi bien que lui, parce que lui, il lit super bien. Dans mon quartier, les pompiers ne font pas de bouche à bouche. Il compte jusqu'à 10. Soit tu es vivant, soit tu es mort. C'est toi qui décides.
C'est le côté de la poétique du PowerPoint. Vous savez, le défilé des slides qui peut parfois sembler rassurant. À la place, mieux vaut tenter de trouver des indices sensoriels cachés sur le dance floor des années 70. Que faut-il entendre par dance floor des années 70 ? Je dirais qu'il s'agit d'un système d'exploitation, au sens informatique, mais avec un certain nombre d'éléments caractéristiques qui n'ont a priori rien à voir avec l'informatique. Ils nous sont bien connus. Des boules à facettes, de platines, salles de mixage et quantité de drogue. J'ai comme l'idée que la culture du disco a inauguré l'époque de la confusion qui entoure le métier. Depuis les années 70, la disco a connu de nombreuses mutations qui témoignent d'une dissolution. La disco, c'est aujourd'hui tout à la fois la house, l'ambiante, l'électronica, le hip-hop, le swap. Mais aussi le trip-hop, la dub, le crunk, le garage, sans oublier la hi-fi et la techno. Toutes ces mutations donnent une idée de la variété du genre disco. Elle suggère à quel point son évolution et sa popularisation sont des phénomènes complexes. Le disco, pour ainsi dire, n'a jamais été vraiment bien pensé en tant que médium en soi. Sans doute, parce que se demander ce qu'est la disco reste aussi compliqué que se demander ce qu'est la musique. Alors peut-être faut-il revenir à ma question de départ et la reformuler différemment. Qu'est-ce qui pourrait sonner comme de la musique à l'époque de la dissolution culturelle ? La disco. Ou pour le dire de manière un peu plus ambiante, le son disco. La dissolution du médium tend à impliquer que nous vivons dans une ère post-médium. Cette idée n'est pas sans me poser certains problèmes. Du moins, est-il possible de l'approcher à partir d'un certain background visuel et sonore dans l'art moderne ? Par exemple, à partir des notes de la boîte de 1914 de Duchamp. Je reviendrai plus tard sur le système d'exploitation que constitue l'art de Duchamp. Pour le moment, restons un peu sur le dance floor des années 70. Et passons les portes du loft, du Paradise Garage, du studio 54, lorsque la disco a transcendé la culture de la danse. C'est bien plus qu'une marchandise prêtée sur vinyle et consommée en club. C'est un format culturel qui s'inscrit dans un cadre communautaire, celui des avant-gardes des années 70. Il y avait des lignes de partage entre chanter et agir, écouter et participer, être un individu ou faire partie d'un réseau, être célèbre, nobody, comme disait Andy Warhol. Ces lignes de partage se sont dissoutes sur la piste de danse. Et ces frontières sont précisément celles qui distinguaient les médiums entre eux. Pour comprendre cette dissolution, il faut aller au-delà de l'aspect caricatural du disco. Il y a en effet des choses moins visibles, plus subtiles et plus intéressantes qu'il est important d'avoir à l'esprit. Il y a des inventions techniques. Les rythmes disco sont indissociables de techniques de production musicale divergentes et inventives, comme le calage de tempo entre deux morceaux. Il y a des innovations d'ordre social. Le disco est étroitement lié à de nouveaux espaces collectifs, tels que le dance club. Il y a de nouveaux modèles économiques qui se sont greffés sur ces espaces. On échange des disques et on rentre en boîte en payant un prix libre. Ces changements peuvent sembler anodins, mais ils accompagnent pourtant des basculements bien plus importants à la même période. De manière générale, les années 70 inaugurent l'accumulation flexible, la transformation de la culture en capital plus. J'ajoute que la production et l'accessibilité du disco ne sont pas sans lien avec les développements informatiques de la mémoire vive à la même période. D'un point de vue esthétique, cette fois, on pourrait dire que le disco est le son des données qui entrent, input, et qui ressortent, output, d'un système dans lequel on accède à de multiples sources. Une temporalité simulée donne le sentiment que tout se passe en temps réel. La grande diva de la disco, Donna Summer, le disait elle-même. C'est Marilyn Monroe qui chante, pas moi. Je suis une actrice, et c'est pour ça que mes chansons sont aussi variées. Pas besoin d'être philosophe, sociologue, économiste ou informaticien pour comprendre comment ces changements ont pu affecter les modes de célébrité. Il faut voir Donna Summer comme une célébrité de la chanson d'un genre tout à fait nouveau. C'est une célébrité qui a été entièrement produite grâce aux studios d'enregistrement. À l'époque, Summer a compris les conditions de la célébrité en termes de métier. On est anonyme, on vit une vie éphémère. On occupe un réseau social fondé sur la valeur d'échange, le droit d'auteur et de l'histoire ancienne. On pourrait dire que la disco a dissous l'authenticité de la voix rock'n'roll avec le single Maxi 45 tours remixé par le DJ. D'un coup, les voix se sont retrouvées diluées en continu par le format EP et la double platine. Les modes de production technique de la musique disco ont permis un son customisé. Et sur ce son, il est impossible de ne pas danser. C'est une chose fabuleuse, martiale, transgenre, homo-érotique. La voix humaine est traitée en studio, comme d'ailleurs le reste de l'instrumentation. Elle devient lyrique, nominale, répétitive, comme des lignes harmoniques réduites à de simples boucles ou à des apparitions sonores. Ainsi, de mix en remix, la voix finit par disparaître. Dans son remix de 6 minutes du Hit and Run de 77, le DJ Walter Gibbons a extrait les cordes, les cuivres et deux strophes de l'intro de L'Oléata Holloway, de sorte que dans l'enregistrement final, la voix semble avoir disparu. Comme par hasard, la dissolution du médium a coïncidé avec le recouvrement de la voix sous les couches de remix. Bien sûr, L'Oléata et Donna n'avaient pas disparu. Elles étaient là, d'une autre manière, à la manière d'une interface. Notre période actuelle n'est pas banale. On a abandonné sans regret l'idée qu'un produit culturel dépend de l'individu. Désormais, après la dissolution du médium, on modélise la production culturelle en interface graphique d'une base de données. Ça ne concerne pas seulement la musique, mais aussi le cinéma, la photographie, le roman et la poésie. Oui, même la poésie. La poésie est devenue un canal de distribution pour les artistes contemporains, une marque de fabrique zombie pour un certain nombre de pratiques culturelles. C'est triste, mais c'est vrai. Bien avant que ça n'arrive, Duchamp affirmait « La peinture étienne me fait horreur, j'aime mieux la poésie. » Pour comprendre ce que la poésie est devenue, il faut regarder les notes de Duchamp. Elles font partie d'une somme d'expériences. Et c'est comme ça que Duchamp a décrit la composition processuelle de la mariée mise à nu par ses célibataires noirs. Le grand verre n'est pas une fin en soi, c'est une machinerie métaphysique imposante, inextricablement enracinée dans les notes que Duchamp a rédigées pour lui-même. Le grand verre est connecté à la banque de données de notes, comme la disco est connectée à une banque de données enregistrée sur vinyle. Pour faire bref, Duchamp anticipait ce que la poésie allait devenir après 2005. Le blog de tout le monde. Un listing Facebook, un canal de distribution, un appareil de production ou de dissémination pour ce que vous voulez. Il faut imaginer la distribution comme le nouveau théâtre. C'est le style de vie mis en scène sur Facebook. Une suite de posts comme un ensemble de notes pour soi-même. Ce sont les pratiques sociales qui redistribuent tout ça. Des enregistrements samplés, délayés, toujours en retard. C'est justement ça le disco. Le plaisir d'accéder et de redistribuer ce à quoi on accède. C'est tout ce à quoi on accède de manière aléatoire et de manière générique. Le disco a probablement été l'appareil poétique et le concept le plus générique de la fin des années 70. Une musique suffisamment indéfinie pour être absorbée dans la culture entendue comme un tout, dans un ensemble de pratiques sociales divergentes, de musique, de poésie, de films, d'émissions télé, et oui, dans les styles de vie de tout un chacun et dans l'autonomie de tout le monde.
Du. Au. Doc. Doc. A. Tout. Du.